état d'anxiété a disparu.
Oui.
Ah.
Bonne observation.
Tu fais de la gestion.
Ah, je me retrouve dans ben, je retrouve des réflexes que j'ai pour dans ma recherche de rencontres de qualité. Dans tout ce que tu as décrit, j'ai retrouvé beaucoup de choses qui me parlent. Ouais. De à la fois ce mystère, l'échange avec le mystère de la personne qui est là, et la patience dans la rencontre pour trouver ce moment de grâce que tu as appelé, enfin, cité plusieurs fois, qui permet d'avoir ce contact à un moment donné. Voilà. Et il n'est pas forcément disponible tout de suite. Mais quand il a lieu, il y a effectivement une coexistence qui s'est créée. Quoi. Ça me parle beaucoup, ça.
Ce moment de grâce, pour une thérapie, on fait tout pour en créer les conditions, et en même temps, il nous échappe.
Pas. Enfin,
il survient ou pas.
C'est une invitation. Très beau. C'est un peu comme ici, on est invité.
Mais est-ce que ce que j'ai présenté, le phéno dans la gestalt, résonne avec ce à quoi vous vous attendiez?
Oui, carrément, oui. Ouais. Il y a plein de... Enfin, je trouve qu'il y a une très grande proximité. Parce que, de fait, le point commun, c'est la phénoménologie. Moi, il y a un des mots là, qui tourne, qui m'obsède un peu, c'est le mot harmonie. Et notamment... En fait, Husserl dit que deux individus se perçoivent bien, il faut qu'ils soient dans une relation d'harmonie. Plusieurs fois, il reprend ce terme harmonie. Et il y a. Alors, je vais essayer d'exprimer un truc que j'ai du mal à comprendre, mais il y a un poète dont je parle souvent qui s'appelle Friedrich Hölderlin, qui est un homme qui avait vraiment. En tout cas au début de sa vie, le souci d'aider les gens, d'être dans le... Enfin, je pense qu'il était un besoin de prendre soin de la population. Il avait beaucoup de... Il avait cité beaucoup sur la politique avec Hegel, avec tous ces gens-là. Et il disait qu'il fallait... que l'homme... Le grand manque de l'homme, c'était le sacré. C'est-à-dire que les hommes avaient perdu le sacré et que du coup, c'est pour ça qu'il y avait une sorte de détresse. Qu'ils avaient besoin que les hommes avaient besoin des poètes. Et pour lui, le sacré, c'est... Alors, c'est pas quelque chose de divin, c'était très... très... Enfin, similaire à la nature. Pour lui, le sacré, c'est de la nature. Cette force du lever du soleil, du coucher de soleil, cette force de la forêt. Donc, le sacré, c'est cette présence-là. Pour lui, le sacré, c'était pas quelque chose qui était coupé du profane, c'était au contraire un retour à l'unité. Et alors moi j'essaie de voir le lien avec le soin, enfin pour faire le lien avec ce que vous dites. Et en fait, ce que j'en comprends, c'est qu'il dit que finalement, l'homme est un peu dans une sorte de, je crois qu'il utilise le terme d'unilatéralité, d'un fonctionnement avec un manque qui le fait souffrir. Et quand il va arriver s'il arrive à être dans un espace sacré, notamment avec d'autres, s'il arrive à vivre cette harmonie, il utilise aussi ce terme harmonie. En fait, le fait, avec ses manques, de vivre l'harmonie, il va guérir de ses manques. Alors, le seul fait de vivre l'harmonie. Et en vous écoutant, et en moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup sur le soin. Est-ce que finalement, ce qui va apporter une guérison, on est d'accord, hein, c'est un terme. Il faut bien parler, quoi.
Oui.
C'est-à-dire, est-ce que finalement, la guérison, elle vient pas de cette harmonie qu'on crée? Est-ce que dans la gestalt, le terme harmonie est utilisé? Est-ce que, en fait, à partir du moment où on crée avec le patient une relation harmonieuse, qui effectivement nécessite une sorte de réciprocité, qui effectivement nécessite de se de se dire est-ce que quelqu'un qui peut être dans une désharmonie, nous-mêmes on peut l'être aussi en tant que thérapeute, est-ce qu'arriver à un fonctionnement harmonieux, est-ce que c'est pas ça aussi à apporter la guérison?
Alors, l'harmonie, c'est pas un terme gestaltiste, mais quand je vous écoutais, moi ce que ça m'a plutôt évoqué, c'est la nostrité de Binswanger. La nostrité de Binswanger. Enfin, Binswanger, c'est un. Enfin, il s'est intéressé à la phéno et c'est un médecin aussi. Et c'est un disciple de Heidegger. Et pour Heidegger, ce qui. Comment dire. Je ne suis pas philosophe, hein, donc, mais de ce que j'en ai compris, c'est l'être pour la mort qui crée l'anxiété chez l'homme et qui l'amène à avoir des crises de mal-être, en fait. Bien sûr, il y a la notion de l'être avec chez Heidegger, c'est-à-dire le fait qu'on est jeté au monde. On n'a pas choisi d'être là, on est jeté au monde. Et dans ce monde, y a les autres. Donc on a affaire avec les autres. Okay. Pour Heidegger, la grande angoisse de l'homme, c'est la mort, en fait. Et pour Binswanger, c'est pas ça. Moi, j'adhère à fond à Binswanger. pour Binswanger, la grande angoisse de l'homme, c'est la question de la nostrité. Et c'est ça, il donne le primat à la nostrité, c'est-à-dire que venir au monde pour l'homme, c'est arriver au monde dans une relation à l'autre forte, dans une relation d'amour à l'autre, en fait. Et que la grande angoisse, et Marion, philosophe Marion le dit aussi, que la question première qui habite l'homme, c'est pas qui suis-je, c'est même ton. Même ton. Et du coup, c'est quelque chose qui se dit pas trop dans les milieux thérapeutiques, mais pourtant, moi, mes 20 ans de clinique, c'est une certitude. Ce qui fait que quelque chose se passe, c'est qu'il y a de l'amour qui circule. Je peux utiliser toutes les techniques du monde si je suis pas en amour avec mon patient. C'est-à-dire, être en amour, c'est un peu ce que... Après, on peut le dire avec plein de mots différents. C'est ce que dit Sylvie Choc dans nos formes dans son texte quand elle dit « Je vois de la beauté dans mes patients ». C'est un élan d'amour, en fait. C'est un élan de... Mais oui. Et s'il n'y a pas ça, il ne se passe rien, en fait. Et c'est ça aussi, être pleinement engagé, je trouve. C'est-à-dire, c'est accepter de se laisser toucher à ce point par cet autre-là, dans ce cadre-là. Donc c'est pour moi, c'est au-delà de l'harmonie. C'est ce que ça m'évoque.
Mais est-ce qu'on vit pas comme ça en société, je veux dire, avec notre être social, c'est-à-dire ma fonction, on connaît madame, voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas des situations que je peux vivre où j'ai accès à une autre profondeur, à autre chose?
Ah bah oui.
Et c'est ça qui, je pense aussi, qui va faire que dans une rencontre avec un patient dans la gestalt-thérapie, ça va me faire advenir à autre chose. Je suis plus cet être, social, que je ne suis pas d'ailleurs, que les autres, que la vie, les autres, ma fonction,
que je suis aussi, mais je ne suis pas
que aussi, ça. Mais je veux dire, c'est pas ce qui vraiment va me mettre en mouvement, va me toucher.
Quoi. Et va me faire exister, en fait.
Oui, ouais, va me faire exister.
Et me sentir exister, me sentir.
Avec cette nouveauté, cette appétence, cette.
Oui, et Dieu merci, il n'y a pas que dans le cadre d'un cabinet qu'il y a des endroits où on peut se sentir exister.
Je m'adresse à l'autre d'une autre façon. Ça se sent même à travers des mots, des mots simples, des demandes simples. Il y a quelque chose qui est touché. Et est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est pas. Enfin, je veux dire, ce centre-là n'est pas endormi, quoi. Est pas un peu. On est tellement dans le social, on paraît dans le.
Voir dans la différence.
Dans la réussite sociale. Et que la poésie peut réintroduire.
Voir dans l'indifférence. Je prends souvent le train. Ça me frappe souvent dans le train. Il y a des messieurs qui passent là avec quand on voyage en première, tellement je voyage. Donc ils passent avec une collation. Mais c'est tout bête, mais à chaque fois je suis surprise. Donc monsieur, madame d'ailleurs, propose une boisson. Donc les gens disent merci, bonjour, merci, au revoir. Mais en fait, ils n'y sont pas en fait. Et le simple fait de regarder la personne pour lui dire bonjour, merci, etc., et ben, il se passe quelque chose en fait.
Au quotidien.
Ouais. Alors ça rompt la quotidienneté. Il se passe quelque chose.
Une qualité de présence, on peut dire.
Ouais.
Qualité d'être.
Voilà.
Je suis pas sans penser à Martin Buber avec le je tue, je cela.
C'est un courant de la gestalt dialogale, mais qui a un peu.
On est appelé à la nouveauté, alors qu'il y a des moments où on aimerait trouver quelque chose de stable et de pour se reposer. Mmh. Alors sans arrêt, on est appelé à aller devant. Un peu, je pensais à la respiration, quoi. L'expiration meurt et après l'inspire devenir. Et je suis toujours dans ce mouvement-là. Mourir à ce que je suis, devenir, advenir à ce que je ne suis pas encore.
En fait, ça me fait penser à pas mal de choses, tout ce que vous avez dit. L'autre jour, j'écoutais un podcast sur Socrate et la question de la vérité, en fait. En fait, la vérité en grec, je crois que ça se dit aletheia, et c'est de l'ordre du dévoilement. Donc, c'est quelque chose notre propre vérité, en fait, se dévoile à nous au fur et à mesure de la vie. Comme s'il y avait. Une forme d'essence en nous qui connaissait où il y a une forme de vérité. Je ne veux pas être forcément très clair, je suis désolé, mais il y a une forme de. Enfin, c'est comme si on avait une. C'est notre âme qui a cette vérité en nous. Enfin, j'essaie de poser des mots. Et en fait, les expériences, et du coup, je relis ça un peu à la phénoménologie. Les expériences font que, en fait, cette vérité, elle peut se dévoiler à nous. Chaque expérience va nous apporter. Une connaissance supplémentaire sur nous, une prise de conscience supplémentaire sur nous. Et du coup, en fait, sans expérience, du coup, on ne peut pas apprendre sur nous. Et je trouve ça. Et on ne peut pas dévoiler notre vérité, en fait. Ça m'a fait penser à ça. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, on se renouvelle en quasi-permanence, quoi. Comme ce qui est tout autour de nous, le vent qui tourne en permanence, etc. Et en fait, c'est assez aussi spirituel dans le sens où tout change en permanence autour de nous. Nous, on change aussi en permanence. Et en fait, c'est ça qu'on n'accepte pas. C'est le fait que nous, on aimerait que ça soit stable, que notre identité, qu'elle soit figée, etc. Mmh. Sauf qu'en fait, c'est pas possible puisque la réalité, elle est complètement différente. Mmh. Et du coup, on crée pas une réalité, mais on crée une. Ouais, enfin, je sais pas quel terme on pourrait utiliser, mais une forme de vérité qui en fait n'existe que dans notre tête, enfin que dans ma tête en tout cas, alors que la réalité elle est complètement différente et change en permanence. Ça m'a fait penser, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à ce podcast que j'ai écouté en fait sur Socrate, où l'idée c'est que les expériences font que on se découvre en fait, on se découvre. On découvre notre vérité et elle est jamais pareille, elle change en permanence. J'avais ces deux idées-là en tête en vous écoutant et je le pose là si ça peut permettre d'autres questions, d'autres idées.
Pour l'anecdote, on aime bien Socrate ici, il est sur la petite balançoire. C'est un personnage avec nos cafés, ça. Donc,
il veille.
Je dis toujours qu'il rigole en regardant tout ça.
Comment vivre sans inconnu de l'ensoir.
C'est joli, c'est très beau. Ah, bah oui. J'aime beaucoup.
Qui a dit ça?
Comment?
Qui a dit ça?
René Char.
René Char.
C'était quoi la question?
Belle chose en écharpe.
Comment vivre sans inconnu devant soi? Je trouve que c'est très beau. Comme ça, on découvre. Et puis, pas te savoir, je trouve que c'est... Pardon. Ça peut rassurer aussi. Pas te connaître, pas te savoir.
Je me disais que le thérapeute dans la gestalt-thérapie, il part dans une sacrée aventure.
Ouais. Ça a l'air, ouais.
Moi, je vais bien essayer avec ma voisine.
Une aventure vivante.
Comment?
Une aventure vivante.
Ouais.
Et altérante.
Bah, du côté de l'individu, l'enjeu, c'est d'accumuler du savoir. De l'autre côté, l'enjeu, c'est de développer de la sécurité dans l'insécurité. Enfin, le thème, c'est l'angoisse, en fait, puisque on ne sait jamais ce qui va se passer. Alors, de l'autre côté, il peut y avoir l'anxiété de ne pas savoir, les connaissances, de ne pas avoir accumulé assez de connaissances. Là, c'est l'anxiété de... Quel est l'inconnu qui va se, se dévoiler devant? Et comment je vais être altérée par ce qui se passe là?
Oui, du coup, il y a plus de générosité en quelque sorte.
Il y a de don de soi.
Plus d'équilibre, on peut dire.
C'est marrant que vous disiez ça parce que, enfin, au début de ma pratique, je me suis vraiment intéressée à la question de la symétrie ou de la non-symétrie de la rencontre.
Oui, c'est ça.
Alors, on ne peut pas dire qu'elle soit totalement symétrique parce que le thérapeute est quand même au service du processus, mais dans Gestalt, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus symétrique.
Est-ce qu'il y a la notion de réciprocité? C'est-à-dire, là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on met pas mal au travail. Est-ce que le thérapeute se reconnaît soigné par la relation thérapeutique?
Alors, on ne le dit pas aux patients, mais bien sûr.
Et pourquoi on ne le dit pas aux patients?
Parce que si on veut être en authenticité, il faudrait payer aussi.
Un gratuit, comme c'est
non, ça nous ouvre une relation nouvelle.
Mais grâce à la sécurité.
C'est vrai.
Non, parce que quand même, il y a une différence essentielle, c'est qu'on est vraiment au service du patient. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'on est authentique. Et c'est une authenticité qu'on est obligé de travailler en permanence. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Si dans le quotidien, si quelqu'un m'énerve, j'ai beau être gestalt thérapeute, à un moment donné, je vais dire tu fais chier quoi. Je vais jamais dire ça à mon patient. Il va falloir vraiment que je travaille. Déjà, est-ce que ça me paraît utile de le lui dire? Est-ce que dans le processus, ça paraît cohérent de pouvoir travailler ça avec lui? Enfin voilà, comment ça parle de la situation? Ça, c'est du boulot, quoi. Et alors, on lui dit pas parce que... Pourquoi on lui dit pas? Ça m'est arrivé de le dire, mais plutôt en fin de thérapie. Pendant ce... Je pense que ça serait... ça serait encombrer le patient de choses qu'il...
Donner une responsabilité aussi,
voilà.
Qu'il apporte.
Ouais, voilà.
Se recharger d'un rôle.
Bien sûr qu'ils nous font travailler... Quand j'avais commencé ma carrière de thérapeute, j'avais interviewé pas mal de thérapeutes pour voir un peu, je leur posais toutes ces mêmes questions. Et une des questions, c'était, d'après vous, qu'est-ce qui vous fera arrêter votre métier? Et je crois que 80% m'avaient répondu, quand je serai guéri. Quand je serai guéri. Ouais,
la sagesse.
En même temps, dès qu'il se passe... Quand il se passe quelque chose de fort pour l'un, c'est difficile d'imaginer qu'il ne se passe pas quelque chose aussi pour nous en résonance dans ce lien thérapeutique. C'est vrai que, voilà, après la congruence, c'est vrai que quand vous en avez parlé, je me suis demandé dans quelle intention j'avais vous posé la question, mais vous venez d'y répondre, si ça devait être toujours au service justement pour vous, effectivement. Moi, j'aime beaucoup cette idée de remettre le vivant en circulation et de... fait, d'impulser un mouvement qui va réinjecter du neuf. Et c'est un peu l'écho que ça me fait, en fait. C'est comment est-ce qu'à un moment donné, on va défiger ce qui a été paralysé dans la vision ou dans le sens que place quelqu'un sur un événement ou dans son émotionnel. Il y a eu quelque chose qui s'est comme arrêté, interrompu, et qui n'est plus capable, en fait, de se transformer, de changer de forme, d'aller d'être une force qui va que j'ai entendu récemment. Donc voilà, moi c'est ça vraiment l'idée que j'aime bien, en fait. C'est sur l'idée de comment on va injecter du neuf, de la nouveauté, et pour ça, ben, quoi de mieux que de passer par une expérience qui va être impliquante, et d'oser mêler, en fait, les présences, qu'elles se répondent, et puis qu'à un moment donné, voilà, qu'il se passe quelque chose de l'ordre de... On est aussi, nous, propulsés ailleurs, quoi. Mmh. Voilà. Et du coup, j'aime beaucoup cette idée. C'est vraiment le lien que je fais dans le discours. Enfin, il y a plein de petits liens. Hein. C'est dur de tout relever, là, comme ça, en écoutant...
En tout cas, ce que ça m'évoque, là, ce que tu dis, c'est que... dans la Gestalt, il y a vraiment l'idée que ce qui fait le changement, c'est pas la prise de conscience. La conscientisation, c'est, j'allais dire, c'est un effet collatéral, c'est un travail de... C'est un travail, ok. Mais ce qui va vraiment être important, c'est l'expérience inscrite dans le corps, dans les sensations, dans l'émotionnel, tout autant que dans la pensée, de quelque chose de vivant, d'une expérience qu'on partage là ensemble et qui nous transforme, en fait. Et ça, c'est pas là que seulement que ça se passe. C'est tout aligné, quoi. Je crois que c'est la grande différence, en fait. Souvent, il y a des thérapies corporelles où on va travailler les sensations, ou des thérapies verbales, mais travailler la totalité dans le moment présent, pas à propos d'un ailleurs, c'est quand même assez propre à la Gestalt. Et insuffler tout ce que tu dis.
Oui, c'est ça. C'est... Oui, une reprogrammation, comme si on enregistrait d'autres choses. Oui, c'est vrai que souvent, enfin, moi, ce que j'ai constaté, c'est que la mémoire en elle-même était souvent un sac de rumination. Enfin, c'est là où on allait figer les choses, en fait, dès qu'on on allait dans ces processus qui allaient tenter d'extraire un sens purement du passé, en fait. Et que la force la plus puissante que j'ai vue à l'œuvre, c'est pas du tout celle-là. Même si ça peut être intéressant de poser des mots et de comprendre pourquoi, mais peut-être dans une certaine mesure, la force la plus puissante que j'ai vue à l'œuvre, c'est vraiment... dans ce renouvellement de l'expérience vivante dans un présent donné, en fait, qui allait complètement remettre toute la vie en circulation, quoi, voilà. Et ouais.
Ça parle de Gestalt.
Ouais. Pour moi,
Gestalt, sans
savoir. Même si j'adore cette phrase, je la retiendrai de créer de l'existant ensemble. Okay. C'est ça qui change quelque chose, en fait. Après, on parle du lien thérapeutique, mais en fait, voilà, on pourrait l'appliquer à notre vie dans l'absolu, de créer de l'existant ensemble. Quoi de plus beau, quoi de plus. Ouais.
Alors, dans notre vie quotidienne, comme ça, comment on peut
pratiquer,
essayer de tendre vers cette présence?
C'est juste ce que vous disiez, c'est à la fois la présence à soi et comment dire, et cette présence à soi et à la situation. pour sortir du fonctionnement et des automatismes de l'habitude. En même temps, heureusement, encore une fois, qu'on fonctionne, on a besoin aussi de faire des choses, j'allais dire, sans que ça nous crée de remise en cause particulière. Mais c'est fatigant d'exister, en fait.
C'est vrai.
Des fois, on a besoin que ce soit un peu plus simple.
Je suis particulièrement touchée par... pas beaucoup de choses, mais en particulier par le potentiel de liberté qu'il y a et révolutionnaire, hein, qu'il y a là-dedans. Parce que finalement, effectivement, il y a de l'inconnu partout et on comprend que ça puisse parfois déranger, en fait. Et c'est quelque chose qui est fascinant de voir ce côté... Pour moi, en vous entendant, finalement, en vous écoutant, il y a peut-être autant de gestalt thérapie que de gestalt thérapeute. Et finalement, on se dit, enfin, c'est un peu vertigineux aussi. C'est-à-dire que, enfin, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Et la deuxième chose, ça m'a fait penser à un passage dans un livre d'Anne Dufourmentel.
Je l'adore.
Qui est vraiment... Où elle raconte comment avec un patient il n'y arrive plus et en fait ils descendent se promener le long de la Seine et ils descendent marcher, donc ce qui est déjà quand même, quand j'ai lu ça je me dis tiens c'est quand même assez intéressant comme pratique, et là elle se rend compte justement par cette expérience que ça, voilà, ça lâche tout en fait, elle arrive à ce moment de grâce et donc enfin, j'ai trouvé ça, parce que ça rejoint ce que vous dites sur cette importance de l'expérience qui fait en fait un déplacement. Et comme vous dites qu'on n'arrive jamais là où on veut, que ça n'a souvent rien à voir avec la situation de départ, je pense que il n'y a pas plus créateur que ça en fait, au niveau relationnel. Parce que là, on est dans la surprise, dans l'inconnu créé. À qui on donne forme, dans sa forme la plus absolue finalement. Et ça c'est assez fascinant, enfin, en vous écoutant, c'est vraiment... Voilà.
J'aime bien l'idée, le côté révolutionnaire. Je trouve que les gestaltistes ne se mettent pas assez en avant. Ça c'est vraiment une posture radicalement différente. Mmh. Et c'est dommage que ce ne soit pas plus... qu'on communique pas plus à cet endroit-là.
Puis quelque part, vous êtes, on a l'impression, moi, j'y connais vraiment rien. C'est juste, c'est la première fois que j'entends vraiment. Vous travaillez sans filet. Par rapport à, il n'y a pas toute la théorie. Freud a construit tout un, voilà. Et là, on a vraiment l'impression que c'est un engagement justement. Et ça me faisait penser, quand vous dites l'amour, c'est ce que dit Dufourmentel aussi, hein, c'est finalement, cette importance de l'amour, ça me faisait penser un poète que j'aime beaucoup, qui est aussi prêtre, qui s'appelle Paul Baudiquet, qui a écrit des choses absolument magnifiques sur le retour du fils prodigue, et qui dit les plus beaux regards d'amour sont les regards qui vous envisagent. Bon, il est très lié à Lévinas et il est très dans cette philosophie-là, et c'est vrai qu'on sent ça en vous écoutant, c'est impressionnant.
Alors, on n'est pas complètement sans filet. Je n'allais pas vous encombrer de choses en deux heures, mais on a quand même une théorie qui est très petite.
D'accord.
Mais cette théorie, elle sert à quoi en fait? On appelle la théorie du self. C'est une théorie qui sert à s'orienter dans la séance. C'est-à-dire que c'est une thérapie non finaliste. On n'a pas, comme la plupart des thérapies quand même, peut-être sauf les TCC. Les TCC sont plutôt finalistes, mais on n'a pas d'idée de là où devrait aller le patient, bien sûr. Mais en revanche, dans la séance, cette théorie nous permet de dire, ok, alors là, il vaut mieux que je dise, dans la multiplicité des interventions qui peuvent nous venir à l'esprit dans la situation, cette théorie nous aide à choisir où aller pour soutenir l'émergence et l'arrivée de Kairos. D'accord. Donc c'est le petit filet qu'on a. Alors, de mon point de vue, parce que toutes les écoles ne transmettent pas cette théorie.
D'accord.
mais elle aide quand même à se repérer. Mmh. Pour moi, c'est vraiment une boussole dans l'instant.
Mmh. Après, c'est vrai que par rapport à cette notion de révolution, de liberté, je trouve qu'il y a, bon, il pourrait y avoir deux écoles, une école scientifique, une école phénoménologique. Mmh. Et que finalement chacun choisirait ce qui lui correspond. Mais en même temps, on a quand même l'impression que toute cette façon de poser des diagnostics tout le temps, de poser 3-4 diagnostics sur des champs extrêmement différents, c'est-à-dire qu'en fait, on pose un diagnostic pour un millier de 100 000 personnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Bon, déjà, en termes de. Alors peut-être effectivement que ça sert des gens, enfin je l'entends, mais en même temps ça dessert des gens. Enfin, et puis en même temps, si c'est pas notre réalité humaine d'être. Enfin, si on est fondamentalement mystérieux, si fondamentalement soi-même on est soi-même avant tout en capacité soi-même de se prendre en charge, de trouver des solutions, je trouve qu'il y a quand même la question de. Alors qui est délicate, hein, je. Enfin, comme je suis le maître des lieux, je m'exprime librement et sans problème, mais moi je me pose la question quand même, qui n'est jamais mis en avant parce que c'est pas politiquement correct, de toute cette violence de la médecine, enfin oui, de la médecine, je parle de mon métier, la médecine classique, la psychiatrie, c'est des diagnostics qui sont violents parce que ça catalogue quelqu'un, alors moi je sais pas si... Encore une fois, j'entends que ça puisse être aidant pour certains profils, mais malgré tout, j'ai quand même un doute là-dessus. Et que si c'est aidant, est-ce que c'est pas parce qu'on est dans une culture un peu comme ça d'une asymétrie où certains pourraient dire à l'autre comment ils sont, enfin...
C'est l'illusion de la réponse, un peu.
Voilà, enfin...
L'explication.
Ouais.
Est-ce qu'ils deviennent emprisonnement, quoi.
Complètement.
On se retrouve dans la catégorie, après on ne sait plus comment sortir. Donc il y a un moment de soulagement, il semblerait, et puis après, il y a un emprisonnement. Donc, c'est ce que je ressens.
Ouais, ça isole les gens.
Ouais.
Et puis l'autre conséquence qui interroge, c'est le débouché thérapeutique sur des médicaments, sur des traitements. Alors les gens voient l'appétence qu'il y a pour les médicaments, et finalement, tant qu'il n'y a pas de médicaments, quelque part, il n'y a pas de pathologie, pas de soins. En même temps, les médicaments rendent malade. Enfin,
ça soigne d'un côté, ça détruit de l'autre.
Il y a des gens qui sont. Enfin, moi, j'ai
comme
des
bases. Voilà.
c'est très intéressant parce que finalement, c'est un peu la différence avec la médecine chinoise. Enfin, moi, tel que je l'ai un petit peu comme patient, parce qu'ils sont là justement dans ils sont pas des diagnostics. Mmh. En fait, ils sont quand vous allez en Chine. Vous allez régulièrement chez votre médecin, le médecin traditionnel, qui va vous écouter le corps au moment T et qui va justement faire des choses pour accompagner, rééquilibrer et faire que en fait vous ne soyez plus malade, en prévision de ne pas être malade, donc de pas qu'il n'y ait pas cette dimension de diagnostic. Pardon. Mmh. Et ça, il y a quelque chose de radicalement différent comme approche par rapport à ça, et qui est très libérateur et holistique, enfin unifiant, enfin il y a quelque chose de très différent de chez nous. Alors, ils ont aussi des médicaments, hein, il y a pas de mais ils sont dans une prévention et dans d'autres médicaments en particulier, de toute façon. Mais il n'y a pas juste. Ils sont en train d'accepter de fonctionner de plus en plus comme notre médecine à nous, mais dans une approche plus traditionnelle. Par exemple, ce sont de grandes. Enfin, moi je l'ai vu dans un hôpital, les gens venaient voir la personne qui était extrêmement réputée depuis très longtemps, qui venait une fois par an, il faisait la queue, ça faisait des kilomètres pour se faire. Pour prendre le pouls, et en fonction de ça, alors c'était un mini diagnostic, mais ils venaient pas parce qu'ils étaient malades, ils venaient parce que ils voulaient avoir une sorte d'avis sur l'état de leur corps et potentiellement après aller voir leur acupuncteur ou prendre des plantes pour rééquilibrer en douceur, sans être dans une urgence. Et ça, je trouve ça assez C'est intéressant. Ouais. C'est un peu différent chez nous.
Moi, je voulais revenir sur ce que tu disais, Jean, du diagnostic et de l'enfermement, enfin, de ce que ça produit chez la personne. Et j'étais en résonance avec ce que tu disais, Valérie, sur la sécurité dans l'insécurité, en fait. Mmh. Comment est-ce qu'un diagnostic vient, enfin, peut-être fermer quelque chose, mettre un bouchon et faire de la fausse tranquillité sur une situation, un vécu qui, de toute façon, notre vie, elle est fondamentalement intranquille, puisqu'elle est sans cesse nouvelle et qu'on n'est pas préparé au nouveau, à ce qui va advenir. Donc, effectivement, je pense que le diagnostic, ça vient rassurer un peu des deux côtés. Il y a quelque chose à en dire, il y a quelque chose. Et ça ferme aussi quelque chose qu'on ignore, en fait, et à quoi on est confronté et qui nous effraie, d'une certaine manière. Mmh. Et comment est-ce que, dans la rencontre, effectivement, quand des mots sont mis sur ça, sur ce qui est vécu des deux côtés, en vérité, enfin, en authenticité, ça vient produire autre chose. Mmh. Qu'une parole, qu'un diagnostic, qu'une étiquette, ou quelque chose. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis.
Ah, si, moi, ce que j'entends, c'est que tu dis que le diagnostic, c'est la force, c'est une force inverse à la proposition qui est d'être tout le temps en mouvement pour exister, pour découvrir, pour rencontrer, pour faire expérience, pour se libérer, pour être en mouvement, c'est-à-dire en vie, en fait. Et que si on donne une illusion, une fausse tranquillité, parce que par un diagnostic, on apaise un temps la personne, ben, elle reste toujours avec son mystère et éventuellement sa souffrance. Donc on ne l'a pas mise en mouvement. On l'a dit, bah, ok, vous vous arrêtez sur le bord du chemin, tout va bien. Mais est-ce qu'elle aspire à une vie, en fait, enfin, donc, peut-être quelque chose qui est statique au lieu d'être dynamique, quoi.
Et puis moi, je pense que le danger, c'est que le patient, il s'identifie intégralement à ce qu'on a dit de sa maladie ou pathologie. Je vois par exemple le cas des personnes bipolaires. Ouais. Donc elles vous présentent ça, je veux dire, dans l'association d'accompagnement de chercheurs d'emploi dont je fais partie. Voilà, je suis bipolaire. Donc après, ça se répète au cours des réunions. Ben, mais tu sais pas, il est bipolaire. Et voilà, on a clos le... Et on est plus que ça, quoi, dire à la personne, mais vous n'êtes pas que bipolaire. C'est... Alors quand on dit ça, il y a vraiment un temps d'arrêt, alors bon, parce qu'elle se sent réduite à ça, quoi, et comme si tout convergeait. Et puis le danger, comme c'est repris par toute la société, pour le désigner, après on ne peut plus s'en sortir, quoi, je me dis.
Non, je pense que c'est ce qu'ils cherchent peut-être au début, justement, c'est d'être... Je me dis, c'est peut-être l'effet recherché au début, c'est de trouver quelque part un sentiment d'appartenance. Voilà.
Je ne suis plus tout seul.
En fait, pour moi, ouais, j'ai l'impression que souvent, les gens qui ont besoin d'un diagnostic et que ça rassure beaucoup, c'est souvent des personnes qui ont besoin de trouver un reflet, en fait, à l'extérieur d'eux, d'un reflet de compréhension, en fait. Et qui ont besoin qu'on prenne la mesure de ce qu'ils sont en train de vivre et de faire comprendre aussi ce qu'ils vivent. Ben moi, ça me rappelle un peu ce que disait Jérôme Thélo ici, on parle mal, et c'est parce qu'on parle mal et qu'il y a un défaut dans notre langage qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive plus à expliquer l'intensité de ce qui nous traverse, de ce qu'on vit, qu'on peut presque en tomber malade, quoi, en tout cas... Quelque chose comme ça qui vient presque nous couper du vivant, de l'autre. Et moi, j'ai l'impression que ce qui est recherché en premier, c'est ça, en fait. Et que c'est peut-être parce qu'il y a une carence à un endroit, une carence dans notre capacité globale, je veux dire collective, à écouter l'autre et le rejoindre, en fait. Je ne vais pas faire le procès. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça, c'est vraiment qui a trouvé un sentiment d'appartenance qui vient de sortir d'un isolement notamment. Et après, bah, y a tout ce que vous dites sur les conséquences, en fait, qui sont après terribles d'enfermement, de voilà, que ça coupe le vivant en soi, etc. quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que même quand quelqu'un a un diagnostic, de comment nous, on ne va pas s'arrêter à son diagnostic et peut-être lui demander à lui quelle est la représentation de son propre diagnostic, en fait, c'est-à-dire pour lui, et qu'est-ce comment, qu'il met derrière.
Et comment il vit le fait qu'il y a un diagnostic.
Et aussi, ouais, peut-être ouais. aussi, ouais, je sais pas.
Parce qu'effectivement, les vécus sont très différents.
Mais c'est ça, ils peuvent être heureux.
Voilà, oui, exactement. Oui. Ou pas.
Oui. Et par rapport au problème de la médecine, enfin en tout cas pour les psychiatres, moi je trouve que la grande difficulté que j'ai, c'est de trouver des psychiatres qui soient autre chose que des prescripteurs de médicaments, en fait. En fait, aujourd'hui, les psychiatres, ils n'ont pas été formés, j'ai l'impression, et ils n'ont pas le temps de faire autre chose que cocher des cases sur un diagnostic et prescrire des ordonnances. C'est vraiment pas le même métier. Après, il faut juste trouver un psychiatre qui prend un peu le temps pour pas juste faire la même ordonnance à tout le monde. Et, c'est terrible. En fait, les médecins ne sont plus... Alors là, je parle des psychiatres, mais le problème, c'est pas tant la médecine en elle-même. Certes, on peut parler dans son côté rationaliste, etc. Mais c'est les directions qui ont été prises de faire des médecins des techniciens et non plus des accompagnements de personnes, en fait. Les médecins, ils accompagnent une maladie, ils accompagnent pas une personne. Alors bon, des fois, on est bien content quand même d'avoir quelqu'un qui accompagne une maladie. Quand on a un cancer, on préfère peut-être avoir quelqu'un qui est compétent dans l'accompagnement du cancer que quelqu'un qui tient la main et qui... Il y a des psychothérapeutes pour ça. Enfin, ça serait bien que les médecins fassent un peu des deux. Ils sont quand même en première ligne quand il y a vraiment la maladie qui est là.
Il reste une sorte de référence pour la personne qui est en pleine détresse, l'entourage, lui, la solution qui est vue, c'est le psychiatre. C'est-à-dire, je vais super mal, donnez-moi l'adresse d'un psychiatre. Et là, c'est compliqué, quoi.
C'est compliqué parce que souvent c'est pas très aidant.
Moi j'ai l'impression qu'il y a un passage obligé, je me dis allez voir le psychiatre, enfin j'en dis pas comme ça, mais je reviendrai après, on travaillera quoi. Ouais. C'est faites l'expérience de la psychiatrie. Et il y en a, enfin après il faut tout pour faire un monde. Après évidemment qu'il y a des psychiatres qui doivent soigner des gens, mais le problème c'est que. C'est tout le fonctionnement d'une culture, quoi. C'est-à-dire qu'on apprend que la solution, c'est dans le médicament, parce que le psychiatre, c'est quand même le médicament.
Ce que je trouve la gravité dans cette situation-là, c'est que la personne malade en allant voir le psychiatre, elle peut avoir une représentation du dernier recours. Et si le dernier recours n'est pas ni soulageant, ni... crée une déception majeure, ça contribue à sa perte de confiance et éventuellement une résignation. Pour moi, c'est inquiétant comme processus. Parce qu'au lieu d'aider la personne, on l'a laissé partir dans l'impasse, entre guillemets. Alors, chacun sa liberté, mais...
Après, oui, il y a cette posture de pouvoir dire à l'autre aussi son non-savoir, justement, sur lui. Et est-ce qu'un psychiatre qui donne un traitement avoue est-ce qu'il est en capacité de dire je fais ça parce que aussi pour l'instant c'est ça que je peux faire et je peux pas faire autre chose pour vous.
J'ai l'impression que le psychiatre il pense que c'est ce qu'il faut faire. Je sais pas s'il prescrit par défaut le médicament, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est. Je suis un peu sévère, mais. Qui croit que c'est bien quoi. Qu'en fait on soigne, vous êtes malheureux, ben prenez un médicament, vous allez être heureux. Et ça c'est une idée de fou, enfin.
Qui est le plus fou des deux finalement? Celui qui prescrit le médicament, celui qui le prend.
C'est quand même incroyable cette notion que que enfin il y a des médicaments qui vont rendre bien. Enfin, alors il y a des gens qui effectivement vont mieux sous médicaments, c'est mystérieux, mais il y en a. Et puis je me sens que la grande majorité, il se passe rien, enfin, à part de la confusion, parce que.
Pour avoir suivi pas mal de personnes qui pouvaient avoir passé des épisodes de dépression, parfois c'est quand même aidant pendant quelques mois d'avoir une béquille. Et puis des fois, il y en a qui se précipitent alors qu'il y a juste à traverser un moment de souffrance et que de deuil et que ça fait partie de la vie. Mais parfois il y a des gens qui sont vraiment tellement handicapés que ça les empêche de fonctionner justement. Donc ça peut aider. Pendant quelques mois, le tout, c'est de ne pas imaginer que c'est la solution. C'est un peu souvent, je dis à une patiente, c'est quand il y a le feu dans une maison, on commence par appeler les pompiers. On ne commence pas par regarder pourquoi il y a le feu. Il faut déjà éteindre quelque chose, que le symptôme ne crie plus aussi fort, en fait. Voilà. Puis après, on peut...
Je pense que j'en vaut mieux aussi parce que le médicament va avec une prise en charge, c'est-à-dire qu'on voit un médecin, on voit... Après, je fais le pari que de notre vivant, tous les antidépresseurs, ce qu'on appelle les IRS, là, seront abandonnés. Moi, je suis sûr que dans 20 ans, on dira que ça servait à rien. Mais déjà, on le dit, enfin, y a des études sérieuses qui... Et ça qui est terrible, c'est que moi, je pense que, très honnêtement, je pense que ça sert à rien.
Quoi,
les gens vont.
Je crois que c'était la famille du Prozac. C'est l'homéopathie, ça sert à rien.
Mais parce que est-ce qu'il ne flotte pas dans l'air l'idée qu'on devrait toujours être
d'humeur égale,
heureux, l'âme ça va bien, alors je suis en colère, dire un mouvement d'humeur ça va pas. Il y a quand même ça qui flotte, qu'il faudrait être toujours.
Dans certaines circonstances, mais pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas ça.
Moi, je me dis comment équiper les gens, les jeunes, les moins jeunes, à dire que la vie, c'est être vivant, c'est ça, quoi. C'est éprouver la jalousie, puis après, on la traverse, puis ça va quand même mieux. Enfin, on trouve une solution. Je veux dire, c'est... Alors que là, quand on voit tous ces bouquins de bien-être dans les librairies, c'est finalement le but de la vie, le sens de la vie.
Arrive
à se confronter.
Après, il y a une forme de rentabilité aussi économique derrière. Après, ce sont des médicaments.
Puis il y a peut-être un manque d'autres propositions. C'est la question qui me hante en fait, c'est quelles sont les autres propositions et comment amener ça aux patients de façon entre guillemets crédible voilà, parce que ce qui est légitime dans le discours social, évidemment, si on fait une proposition plus poétique, on va forcément être un peu moins légitime en tout cas dans le discours social, donc peut-être dans la tête du patient, mais
c'est sûr que dans la société dans laquelle on vit, entre prenez une pilule et ça va aller beaucoup mieux, faites une non-thérapie non remboursée par la sécurité sociale et vous verrez vraiment, vous allez traiter le fond du problème. Et il faut déjà avoir cheminer beaucoup pour se dire je vais prendre la deuxième option en fait.
Mais cela dit, la pause du Covid a prouvé que les gens étaient prêts à passer à autre chose parce qu'il y a eu un changement, ça a chamboulé quand même. Donc on voit bien qu'on est dans un système qui fonctionne un peu sur la tête.
Je reviens sur la légitimité. En fait, est-ce que la légitimité n'est pas donnée par la qualité de l'expérience?
Est-ce que le problème, c'est pas qu'il y a un appauvrissement, c'est ce que je ressens, mais c'est un appauvrissement peut-être du poétique, ou en tout cas de l'importance donnée aux poétiques mon regard peut-être très triqué sur le monde, peut-être que je cherche des fenêtres poétiques et que j'en trouve assez peu là où je regarde, mais c'est pour ça que là, ce qui me hante vraiment moi comme question, c'est quelles sont les autres propositions, que ce soit des thérapies ou des ateliers d'écriture ou j'en sais rien, d'une marche dans la forêt ou je sais pas, mais ce qu'il faut bien imaginer, c'est que les personnes en phase de soins n'ont pas forcément accès, elles n'y ont même pas forcément pensé en fait. Donc à un moment donné, c'est voilà, quelles sont les autres propositions concrètes qu'on peut faire à quelqu'un dans une logique de, d'évidence et de entre guillemets facilité va se tourner vers un psychiatre qui en plus est remboursé parce que ça colle du coup avec ses moyens. Enfin, tout est fait pour nous acheminer vers là. Donc à un moment donné, comment on ouvre un autre champ et comment on va le présenter, comment on va le rendre inclusif aussi. Enfin voilà, pour moi ça, c'est peut-être la question du soin poétique à l'œuvre dans ce qu'il peut avoir de plus concret, de plus pratique, de plus matérialisé en fait. C'est et comment on incarne ça, dans quels espaces, etc. quoi.
Puis ça me fait penser aussi. Enfin, moi je trouve que ce qui m'a vraiment plu dans la Gestalt, c'est une technique de soin basée sur la philosophie. Et en fait, ça, tout ça a trait à la disparition de la philosophie dans la société. C'est-à-dire qu'on l'étudie plus à l'école, alors qu'on se base sur des. Alors, quelle est la base du psychiatre? Enfin, je suis méchant, je suis désolé, mais. Quelle est la base philosophique d'un traitement par IRS? Moi, je vois pas de base. Mais et à côté de ça, on a des philosophes, mais qui sont lumineux. Enfin, mais tout le monde le reconnaît. Enfin, Heidegger, Merleau-Ponty, Kant. Mais tout le monde reconnaît que ce sont des gens extraordinaires. Mais il n'y a plus de voix. Leur voix disparaît complètement. Donc on devient sans philosophie, on devient pauvre. Enfin, c'est et vraiment, enfin, je trouve la Gestalt thérapie exemplaire pour ça parce que c'est un mouvement de soins qui se base sur l'étude d'auteurs qui sont quand même, je sais pas, c'est lumineux quoi. Les textes de philosophie sont lumineux, ça aide à vivre. Et pourquoi tout se perd? Fabrice disait que la musique se perdait, que Beethoven, tout ça se perd aussi. Enfin, on n'écoute plus de musique, on n'écoute plus les philosophes, mais on va devenir très pauvre. On devient très pauvre, très malheureux aussi.
Il y avait une émission de radio qui expliquait que si on perdait la philosophie, c'est parce que on avait la chance dans notre pays d'avoir une année de philosophie à minima, notamment en terminale. Et que ça pouvait ouvrir nos chakras de façon extrêmement intéressante. Sauf qu'il y avait un examen qui s'appelait le bac, où on repartait avec 4 sur 20 pour bien dégoûter les gens et qu'il y avait d'en faire. Voilà. Et quand ils faisaient un sondage chez les journalistes, qui n'étaient pas stupides en termes de philosophie, surtout sur la radio en question, il n'y en avait qu'un qui n'osait pas donner sa note parce qu'elle était bonne, mais tous les autres, ils avaient eu des mauvaises notes. Voilà. Mmh. Ils avaient dépassé cette situation-là. Et alors, leur explication, c'était de dire, mais on est complètement fous, quoi. Au lieu de donner du plaisir pour continuer à développer la curiosité et la recherche, on s'arrange pour casser quelque chose, pour avoir une mauvaise expérience. Mmh. Et une fois qu'on a engrammé la mauvaise expérience, ben, on la met un peu à distance, quoi. Bon, c'est un peu trivial, hein, comme...
Non, mais c'est...
Moi, par rapport à la question que tu posais sur quelle chose proposer, puis ça me fait rebondir aussi sur ce que tu disais, je trouve que c'est peut-être un peu ce qui manque dans nos séances de Gestalt, parce que la plupart du temps, on les fait dans les cabinets, c'est le rapport à la nature. J'ai beaucoup apprécié, je ne connais pas ce poète, mais je prendrais volontiers ses références. Parce qu'on a besoin de reconnecter le sacré, et le sacré il est avant tout dans la nature en fait. Mm-hmm. Et on est de plus en plus coupé de la nature. Mm-hmm. Donc, cette simplicité n'est pas un argument. C'est-à-dire, il y a quelque chose de simple à aller se reconnecter à la nature. Mais c'est tellement simple que ça paraît pas valable en fait. C'est tellement mieux des molécules qu'on a étudiées pendant très longtemps et qui coûtent cher.
Et puis ça allait aussi avec une posture, par exemple la fête des récoltes fin ou début septembre, c'était reconnaître que tout dépendait pas de moi. C'est-à-dire la récolte avait été bonne, ok, j'avais bien planté, j'avais bien semé, mais elle était bonne et il y avait quelque chose, une part de mystère. Donc il y a une posture aussi de l'homme qui a disparu, quoi. Cette posture, tout dépend pas de moi. Alors que maintenant l'homme occidental, le matin il se lève, tout dépend de lui.
Et sa femme,
qu'il s'entend avec sa femme, que ses enfants réussissent, que la secrétaire fasse son boulot, ça marche bien, tout dépend de lui. Donc il y a une charge terrible à porter, quoi. Et ça, ouais, alors on vient chercher des médicaments, quoi, pour se soulager cette tension, cette...
En plus, maintenant, elle va se coucher avec la charge dans le téléphone, dans sa chambre et dans son lit, donc c'est non-stop.
Bientôt dans sa main.
Ouais.
Non, déjà dans
sa tête aussi. Oui, mais au moins, tu vois, le téléphone, tu peux le jeter.
Après, on le voit dans le travail qu'on fait en forêt, la paranoïa que tu en as fait l'expérience. On voit très honnêtement comment les gens sont bouleversés en fait. Enfin, tout le monde est saisi, quoi. Enfin, une sorte de. Mais parce que on est dans cette mise à l'écoute de la forêt. Enfin, l'exercice est juste celui-là, c'est de dire là, tranquillement, on va se mettre à l'écoute, on va.
Mais oui, mais parce que c'est sortir d'une nature objet, paysage, décor. Et c'est rentrer en lien avec la nature qui existe, qui nous fait exister. Et du coup, c'est un sacré changement de paradigme, en fait. Et c'est de ça dont on a besoin.
C'est pas d'aller se promener. Qui existera après aussi, c'est-à-dire tout ce discours aussi très culpabilisant sur l'écologie, où on va détruire la nature. Ben non, les hommes partiront avant la nature. Le printemps, il survivra aux hommes. Quoi qu'on fasse comme bêtise, tout ça va perdurer. Il y aura toujours les étoiles, il y aura toujours le soleil. Donc aussi revenir à se déculpabiliser. Enfin, finalement, ça va.
Une juste place.
Ça va, le soleil se lève, il va se coucher. Quoi. Il y a des problèmes, mais quand même, on peut se dire ça aussi, que c'est beau, ça va. Quoi. Et que le soleil, il n'a pas de dépression, le soleil, il n'a pas besoin de prendre.
Il n'a pas besoin de prendre. Même quand il y a un nuage qui passe devant.
Ouais.
Et qu'est-ce que je peux faire pour que le soleil se lève? Non, simplement être là, présent.
Ah oui. Si tu n'étais pas là, il ne se lèverait pas.
C'est pour ça que. En fait, c'est ça.
Mais si vous voulez voir quelque chose d'assez étonnant et extraordinaire, aller sur les berges du Rhône. En ce moment, le Rhône est tellement haut et tellement furieux, j'ai jamais vu ça. Ah, mais c'est incroyable. Une véritable tempête.
Et les quais, alors, du coup, ils sont submergés.
Ah oui. Moi qui ai l'habitude de marcher sur les bas-ports, on ne peut plus. Ah non, mais c'est incroyable. C'est beau. C'est terrible et beau.
Je reviens sur votre terme d'expérience parce que. Il y avait eu un documentaire qui s'appelait Intuition, qui avait été fait il y a quelques années. Et en fait, on y voyait en Angleterre des enfants qui pratiquaient la méditation à l'école, en fait, des 7-8 ans. Et qui avaient, enfin, qui allaient, voilà, je pense que c'est justement faire ça, enfin, donner l'expérience aux jeunes. Et une fois qu'ils seront dans cette expérience-là, qu'ils l'auront expérimenté, qu'ils auront eu tout à fait... la philosophie, elle peut aussi s'apprendre dans le primaire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de ce sentiment pour l'union de l'âme et du corps et tout ça. Si c'est fait, si on donne le goût... Enfin, vous avez prononcé plusieurs fois le mot du goût, j'ai beaucoup aimé au début. Il y aura... Je dirais, la place est occupée. Et déjà, il faudra d'abord déloger ça et faudra inverser pour dire que les médicaments, c'est mieux que le bonheur qu'on a à méditer, à être dans la nature. Il y avait des leçons de choses, ce qu'on appelle les leçons de choses. Enfin, avant, il y avait plein de choses comme ça qui n'existent plus. Et ça, je crois qu'il y a vraiment une... Il y aurait de la part des politiques beaucoup de choses à faire par rapport à ça et votre de donner confiance dans l'expérience qu'on va faire aux enfants. Et il y a une telle en ce moment, enfin même on sent chez les jeunes une peur, enfin qui est vraiment il faut déjà combattre, enfin pas combattre mais aller à l'encontre de cette peur pour leur dire l'expérience, les grands discours c'est bon, on sait bien que mais pour ça, la Gestalt, c'est très impressionnant.
Il y a de plus en plus de gens qui ont peur de la nature, hein. Qui ont peur de se retrouver dans un champ avec des... Il y a des bêtes. Mon Dieu.
Des bêtes.
Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on s'oriente vers la végétalisation des villes et la renaturation, et qu'on n'a pas compris que c'était cette rencontre-là qu'on va faire. C'est avec les bêtes.
Mais déjà,
et donc le vivant.
Paris, enfin Lyon, je sais pas. Enfin, moi, je suis une ancienne Parisienne et j'y retourne souvent à Paris. Mais les rats sont vraiment nombreux maintenant.
Ici, ils font des colloques tout à fait réussis aussi.
D'accord.
Il suffit d'aller à la Part-Dieu, vous allez sur le Paris de la Part-Dieu, vous arrêtez et puis là, vous verrez les rats qui passent sur les poubelles, qui s'en vont, qui sont sous la dalle, etc. C'est très impressionnant.
C'est vrai.
les gens s'arrêtent pas.
Non, juste. D'ailleurs, je pense à la phrase de Sartre qui disait « On ne guérit pas de soi. On guérit d'une névrose, mais on ne guérit pas de soi. » Et j'ai l'impression que souvent, il peut y avoir une confusion. Qu'est-ce qu'on cherche ? Je reviens sur cette histoire de médicaments. Si on cherche à guérir, à apaiser l'intensité peut-être d'une émotion, pourquoi pas, ou autre, mais si on cherche à se débarrasser de soi, en fait, de cette manière-là, je pense que ça va dans une impasse systématiquement, en fait, et c'est là où la philosophie peut venir nous éclairer abondamment. Et j'aime bien cette phrase qui m'a jamais quitté, la phrase de Sartre, parce qu'il y a une tentation aussi de se débarrasser de soi et de, je trouve, et de l'existence entière, en fait, et de tout ce qu'elle comporte, et de tous ces chaos aussi et tout, et voilà, je trouve ça depuis tout à l'heure, il fallait que ça sorte.
Merci.
Bon, je crois qu'on va peut-être clore. Ben, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Je crois qu'il y a une vraie proximité. Puis peut-être une invitation à poursuivre des rencontres, des échanges, à voir comment Gestalt et la sœur de Soi par la poésie. Sur le